La science CQFD, Natacha Triou.
Pour ce vendredi grand portrait, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec un grand physicien mondialement reconnu. Pour ses travaux en physique théorique, Carlo Rovelli est notre invité. C'est l'un des grands projets de la physique contemporaine, unifier la relativité générale qui régit les lois de l'infiniment grand avec la mécanique quantique pour l'infiniment petit. Et ils sont nombreux à s'y être arrachés les cheveux. Dans cette recherche d'unification de la physique, il est l'un des pères d'une théorie, la gravitation quantique à boucle. Non content de participer à l'un des grands défis de la physique, il est aussi un penseur du temps et de notre incompréhension du temps. Carlo Rovelli, la boucle est bouclée. Carlo Rovelli, bonjour.
Bonjour, la boucle est bouclée.
merci mille fois. Merci d'être avec nous sur France Culture. C'est un honneur et toujours une joie de vous écouter. Vous êtes physicien et philosophe des sciences, membre senior de l'Institut universitaire de France et le cofondateur de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être à l'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd, pour notre live tweet qui commence dès maintenant. Alors, tout au long de cette heure, jusqu'à 17h, nous parlerons donc du problème de la gravité quantique, de vos travaux théoriques de gravitation quantique à boucle, Carlo Rovelli, de votre conception du temps, mais pour commencer, de votre vie de chercheur. Vous avez déjà confié sur notre antenne que pour vous, la recherche, c'est comme la jeunesse. On est animé par le même esprit, l'aventure, la rébellion, la curiosité.
Oui, c'est ça. Même si pour moi, la recherche et la science sont arrivées, je dirais, plus tard que ma jeunesse. Parce que je ne suis pas parmi de ces jeunes gens qui, depuis qu'ils étaient très petits, ils étaient fascinés par la science. Moi, j'étais fasciné par tout, je dirais. Et c'est assez tard, durant mes années universitaires, que je me suis vraiment passionné par la science. Avant, c'était lire tout, c'était voyager, c'était découvrir le monde, c'était la philosophie, c'était la découverte de la vie.
Alors cette découverte de la vie, on va voir que tout au long de votre parcours, vous avez un goût pour l'aventure, pour être hors des conventions. Mais pour revenir sur votre enfance, vous êtes né le 3 mai 1956 à Vérone. Vous dites que vous n'aviez pas le goût des sciences, enfant. Comment ça vous est venu, ça d'ailleurs, ce goût des sciences ?
Assez tard, je dirais. J'étais jeune dans les années 70. C'était un moment de révolte de la jeunesse, de beaucoup de discussions sur comment faire le monde meilleur, explorer des façons différentes de la vie. Et donc, voilà, ça c'était la jeunesse de mes années des écoles supérieures ou des années universitaires. Ensuite, moi, une façon de le dire, peut-être c'est celle-là, que cette grand rêve de faire le monde meilleur, de trouver d'autres façons de vivre, un peu échoué. La plupart des gens sont contents comme ça, ils ne veulent pas changer. Et au moment où on s'est rendu compte que la révolution était perdue, ben je suis tombé amoureux d'une autre révolution que je me suis rendu compte était en train de se faire, qui est la révolution de la science. La science a un aspect profondément révolutionnaire parce que elle est un défi continu à ce qu'on pense, et découvrir des façons complètement nouvelles de regarder le monde. Et ça m'a fasciné. À l'université, j'ai rencontré la physique du XXe siècle, justement la relativité générale et la mécanique quantique, qui devaient devenir mon pain de tous les jours. Et je suis resté fasciné parce que c'était un autre monde. C'était mieux que les drogues psychédéliques.
La physique quantique mieux que les psychédéliques.
Voilà, c'est ça. C'était la découverte de la physique du XXe siècle. C'était une grande merveille pour moi et le début d'une grande passion. Et surtout, durant mes dernières années universitaires, je suis tombé sur un article, c'était un article de review par un Anglais, chercheur anglais qui était Chris Isham, qui expliquait qu'au cœur de la physique, il y a ce trou énorme, on ne connaît pas les propriétés quantiques de la relativité générale. Donc on a les deux grandes révolutions du XXe siècle, les deux grandes découvertes de la physique du XXe siècle, que sont d'un côté la mécanique quantique et de l'autre, les découvertes d'Einstein sur l'espace-temps. Et entre les deux, il y a un trou. Les deux sont de descriptions du monde qui sont très, très différentes et qui, à première vue, ne sont pas compatibles. Et donc, je me suis rendu compte non seulement que c'est un merveilleux univers à découvrir pour moi, mais que c'est il y a un merveilleux univers à découvrir pour tout le monde. Il y a un grand problème ouvert, qui est le problème de la gravité quantique. Et je me suis dit, et si je faisais ça dans ma vie ? Voilà, avec un peu le courage excessif qu'on a à 20 ans, et c'est super, il faut l'avoir.
Vous parlez finalement d'un coup de foudre tardif pour la physique quantique avec cet article publié par Chris Hicham. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans la physique quantique, outre ce problème de physique à résoudre? Est-ce que c'est la façon, comme la mécanique quantique décrit le monde à très petite échelle? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intrigue tout de suite?
Non, c'est pas la très petite échelle. C'est le fait que le monde est différent de ce qu'on voit. C'est la réalisation que nous avons une vision du monde assez claire, qu'on utilise dans la vie quotidienne, et comprendre que ça, ce n'est qu'une approximation, ce n'est qu'une vision partielle de la réalité. C'est un peu comme quand on se rend compte que le monde est rond et de l'autre côté de la Terre, il y a des gens avec la tête en bas et les gens en haut. Et on se dit, mais alors, en haut, en bas, ce sont des choses qui fonctionnent de façon différente de comme je pensais jusque-là. Le monde est autre de ce que je pensais. Et la mécanique quantique fait ça de façon spectaculaire, parce que la mécanique quantique n'est pas seulement une théorie des choses petites, elle est une théorie universelle. Les galaxies, la formation des galaxies est réglée par la mécanique quantique, donc tout est quantique. Et donc, comme on sait très bien, cela soulève des interrogations. Les particules quantiques, on voit très bien qu'elles peuvent être déplacées un peu ici, un peu là, et ça veut dire qu'on ne le voit pas facilement, mais aussi les objets macroscopiques peuvent être déplacés. Et donc, ça veut dire que notre idée que le monde est fait des choses concrètes qui ont une position définie n'est pas correcte. Ce n'est qu'une approximation. Et donc, ça veut dire qu'il y a un monde au-delà de ce qu'on voit facilement, un monde merveilleux que la science nous permet d'entrevoir. Et ça, c'est la beauté de la physique moderne.
Cette rencontre avec la physique quantique lors de vos études à Bologne en 1977 et 1978, cette rencontre, vous la racontez dans votre ouvrage Helgoland, le sens de la mécanique quantique, paru chez Flammarion en 2021. Je vous en propose un extrait. C'est la rencontre avec les quantas qui a allumé des lumières colorées dans mon cerveau. Toucher la matière incandescente de la réalité, là où la réalité remet en question les préjugés que nous avons sur elle. Ma rencontre avec la théorie des quantas a été frontale, seule face au livre de Dirac. Voilà comment cela s'est passé. Je suivais le cours de mathématiques du professeur Fano à Bologne, qui s'intitulait « Méthode mathématique pour la physique », que nous raccourcissons en méthode. Pour ce cours, nous devions étudier seul un sujet en profondeur et le présenter en classe devant nos camarades. J'avais choisi une partie des mathématiques, qu'on étudie maintenant en faculté de physique, mais qui ne figurait pas dans les programmes de l'époque, la théorie des groupes. Je suis allé parler au professeur Fano pour lui demander ce que devait contenir ma présentation. Il m'a répondu « la base de la théorie des groupes est son application à la théorie des quantas ». Prudemment, je lui ai fait remarquer que je n'avais encore suivi aucun cours sur la théorie des quantas. J'en ignorais strictement tout. Il m'a répondu « Et alors, qu'est-ce que tu attends pour t'y mettre ?» Il plaisantait, mais moi, je n'ai pas compris qu'il plaisantait. J'ai acheté le livre de Dirac, dans l'édition grise de Boringieri. Il sentait bon. Je renifle toujours les livres avant de les acheter. L'odeur d'un livre est déterminante. Je me suis enfermée et je m'y suis plongée pendant un mois. J'ai aussi acheté 4 autres livres que j'ai étudiés à fond. L'un des plus beaux mois de ma vie. Et une source de questions qui m'ont poursuivi toute mon existence et qui, après de nombreuses années, de nombreuses lectures, de nombreuses discussions et de nombreuses incertitudes, m'ont conduit à écrire ces lignes. Une réaction à cette lecture, Carlo Rovelli?
Ah, merci beaucoup. Oui, c'est ma jeunesse, c'est ma rencontre avec la mécanique quantique. C'était ça. À deux, moi et le livre de Dirac, et après les autres livres, et c'était le bonheur.
Alors vous prenez souvent la remise en question des autorités, des idées scientifiques. Ça, à l'époque, c'était déjà présent, donc.
Ben oui, c'était pour moi, avant que la science même, c'est la rébellion qui m'a amené vers la science et pas le contraire. Mais la science est une histoire de révolte, de rébellion, c'est une histoire de défi de l'autorité. Attention, pas de rébellion dans le sens de jeter tout, au contraire, n'importe quel scientifique a construit sur le passé, sur la connaissance humaine jusque-là. La science, c'est un peu la découverte qu'on peut aller en avant, comme disait Newton, sur les épaules des géants, c'est-à-dire sur tout ce qu'on a appris, construire sur tout ce qu'on a appris, mais en même temps, en étant capable d'avoir un regard critique sur tout ce qu'on a appris, parce qu'on sait que pour aller en avant, il faut jeter quelque chose. Et donc, Einstein jette quelque chose de Newton, Newton jette quelque chose de Copernic, Copernic jette quelque chose de Ptolémée, et voilà. Et on continue ce parcours. On sait que pour aller en avant, il faut comprendre à fond toutes les choses qui marchent, toutes les choses qu'on a compris du monde qui marchent bien, comme par exemple la mécanique quantique ou les théories d'Einstein. Et en même temps, pour aller en avant, on sait qu'il faut changer quelque chose dans ce qui nous semble évident ou dans ces théories.
Oui, vous écrivez d'ailleurs, la recherche scientifique est venue à ma rencontre. J'ai vu en elle un espace de liberté illimitée ainsi qu'une aventure aussi ancienne qu'extraordinaire. À propos de ce goût de la liberté, une petite anecdote également qui m'a fait sourire. Durant vos jeunes années, vous étiez aussi l'un des promoteurs des radios libres avec une station locale Radio Alice en Italie.
Oui, Radio Alice, c'est un peu mythe en Italie. Ça a été une radio connectée avec l'université de Bologne quand j'y étais. Et c'était un peu la voix de cette jeunesse peu révolutionnaire, alternatif, qui cherchait de s'inventer des façons nouvelles, de vivre ensemble, d'aimer. C'était un peu, tout était un peu extrême. On vivait ensemble, on n'avait pas on croyait pas à la propriété privée, on croyait pas à la famille, amour libre, les maisons, les appartements partagés. On lisait, on voyageait, on cherchait de connaître le monde. On rêvait un monde sans frontières, sans les armées, sans la bureaucratie. C'était des rêves extrêmes qu'on a, beaucoup de nous, ont abandonnés, mais qui un peu restent dans l'esprit comme l'idée du monde idéal.
Alors ce monde sans frontières, après vos études justement, vous passez une vingtaine d'années à travailler de labo en labo et vous partez d'abord à l'Imperial College de Londres pour rencontrer Chris Isham, ce fameux scientifique qui vous a donné le goût de la physique quantique. Comment s'est passée cette rencontre ?
C'était moi qui partais, c'était pas dans une situation structurée. J'ai ramassé le peu d'argent que j'avais, peu, toujours, et j'ai envoyé une lettre, il n'y avait pas encore Internet, en disant « ben, je suis fasciné par ce que vous êtes en train de faire, est-ce que je peux venir ?» Et si les gens me répondaient « oui, tu peux venir », ou aussi si les gens me répondaient « non, j'ai pas le temps », quand même, j'y allais. Il y avait très peu de gens à ce temps-là qui s'occupaient de gravité quantique. Maintenant, comme vous le dites, c'est considéré le grand défi de la physique contemporaine, mais c'était très peu, il y a 40 ans, les scientifiques qui avaient commencé à travailler sérieusement là. À Londres, c'était très intéressant pour moi, parce que c'était la première fois finalement que je pouvais parler de toutes les idées qui je trouvais dans les livres que j'étudiais. Chris Isham était merveilleux, c'était un personnage merveilleux qui parlait pas seulement de physique, mais aussi de psychanalyse, de philosophie orientale. C'était une norme un peu de la Renaissance, très ouvert, très curieux de tout. Et donc, je me suis reconnu dans cette ouverture. Et surtout à Londres, j'ai trouvé ce que je voyais pas en Italie, une situation, une ambiance, un groupe qui mélangeait tout, des gens de toutes les nationalités, de toutes les idées politiques, de toutes les formes culturelles, habillés dans les façons les plus différentes les unes des autres, des jeunes en costume cravate avec des autres pieds nus et cheveux très longs, et tous ensemble passionnés pour chercher de comprendre quelque chose, là on ne comprend pas, regarder où on ne voit pas, comprendre les propriétés quantiques de l'espace et du temps.
Et vous allez continuer de voyager comme ça, puisque vous partez ensuite aux États-Unis. Vous allez faire la rencontre de Abbé Ashketar et ensuite de Lise Molin. Dans votre parcours, hein, ce sont deux scientifiques, deux rencontres déterminantes.
Oui, très déterminant. Hachdekar, c'était à Londres que j'ai appris qu'il avait reformulé la théorie d'Einstein de façon, avec des mathématiques un peu différentes. La théorie était presque équivalente, mais avec des mathématiques différentes, qui semblaient plus adaptées pour ce mélange qu'on espère avec la théorie quantique. Et donc, je suis allé chez lui et j'ai passé des mois ou deux dans son groupe pour chercher d'apprendre au fond comment ça marchait, cette reformulation. Et puis, je suis allé voir Lee Smolin, qui était à Yale, à l'université de Yale à ce moment-là, qui a peut-être 2 ou 3 ans plus que moi. Donc, on était tous les deux jeunes, mais lui, il était un peu plus avancé que moi, qui avait trouvé des solutions. Et ça, j'étais complètement fasciné à une équation qui avait été écrite par deux grands physiciens américains dans les années 60, qui sont John Wheeler et Bryce DeWitt, qui était une équation très mal définie, pas claire du tout qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'était un peu comme l'équation quantique de la théorie d'Einstein, ou l'équation de Schrödinger dans la réalité générale, pour utiliser les mots corrects. Moi, je cherche de jamais utiliser le jargon des physiciens. Mes collègues se plaignent, ils disent « Mais pourquoi tu n'appelles pas les choses avec leur nom ?» Voilà, leur nom, c'était l'équation de Schrödinger dans la réalité générale. Et c'était une équation qui, en principe, devrait décrire l'espace-temps quantique, donc l'équation de la gravité quantique. Mais on ne savait pas la résoudre, c'était très mal défini de façon mathématique, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Et Lee Smolin, avec un collègue, Ted Jacobson, avait trouvé quelques solutions à cette équation. Et ces solutions étaient déterminées, chacune de ces solutions, par une boucle, une ligne fermée dans l'espace. Donc, on écrit un livre fermé dans l'espace et blabla, on fait un calcul, on trouve une solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'était complètement mystérieux. Et je suis allé voir Lee et on a de suite devenu une grande amitié. De façon étrange, parce que moi, j'avais une copine en Italie, donc j'étais très amoureux. Tandis que j'étais aux États-Unis, elle m'a écrit et m'a dit « Carlo, c'est fini, t'es terminé ». Et donc, j'étais complètement dévasté, comme dévasté à 20 ans, toujours dans la vie, quand un grand amour se termine. Et donc, j'étais un morceau et je ne voulais même pas aller voir Lee, mais je suis allé quand même. Je lui ai dit que j'allais, donc je suis arrivé chez lui et on s'est... Cher professeur Smolin, je suis arrivé et on s'est mis à côté d'une table et il y avait des larmes qui descendaient de mes yeux. Et donc, il m'a regardé et il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Je lui ai dit « Ben non, rien, désolé, c'est que... » Bon, finalement, je pouvais... Qu'est-ce que je devais dire? Je lui ai dit « Ma copine m'a laissé. » Et lui, il a dit « Ah oui, moi aussi, il y a quelques mois. » Voilà, donc on est sorti en bateau, à voile, en parlant des femmes, qui est la meilleure façon pour deux hommes de devenir amis. Et après, en parlant de notre vie, de nos rêves, et donc on s'est vraiment trouvés. Et on a commencé ces semaines de discussions, de travail, jour et nuit. On passait des nuits à marcher dans le campus de Yale. Et là, c'est éclairci lentement l'interprétation de ces solutions qu'ils avaient trouvées. Et on a compris qu'ils décrivent des excitations, des quantas d'espace. Un peu comme les photons sont des quantas de la lumière. La lumière n'est pas continue, n'est pas une onde continue, mais c'est granulaire. Alors, ces boucles, ce sont de petites excitations à forme de boucles qui caractérisent les propriétés quantiques de l'espace. Donc, on a commencé à comprendre qu'est-ce que ces solutions des équations indiquaient. Et c'est le début de la gravité quantique à boucle qui a continuer à grandir pour des décennies suivantes et s'éclaircir.
Voilà la naissance d'une grande amitié, d'une grande collaboration, puisqu'en effet, avec Lee Smolin, vous écrivez cette théorie à la fin des années 80.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Écoutez France Culture et la voix d'un des pères de la gravitation quantique à boucle, Carlo Rovelli, avec qui nous avons la chance de nous entretenir tout au long de cette heure. Nous venons de survoler vos jeunes années, de parler de votre rencontre avec la physique quantique, avec Lee Smolin. Alors qu'apporte la gravitation quantique à boucle dans le grand défi d'unification des interactions physiques? Avant de revenir et de répondre plus précisément à ces questions, il faut que l'on repose ensemble quelques bases, Carlo Rovelli. Actuellement, la relativité générale et la mécanique quantique sont les deux grands systèmes du monde, les deux théories socles de la physique moderne, sont les deux énormes révolutions du XXe siècle en physique, mais ces deux théories sont complètement incompatibles, je veux bien qu'on revienne là-dessus.
Oui, si on est un étudiant de physique à l'université et on suive les cours de relativité générale le matin, qui sont très intéressants parce qu'il y a la cosmologie, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, l'espace-temps qui courbe, c'est formidable. Et on suive les cours de mécanique quantique ou de physique des particules, des théories quantiques des champs l'après-midi, qui aussi sont très intéressants. Tout le modèle standard, les quarks, les neutrinos, le boson de Higgs et tout ça. Mais un bon étudiant doit penser que ses professeurs ne se parlent jamais depuis un siècle ou bien ils sont des idiots parce qu'ils décrivent le monde de façon complètement différente. Le matin, le monde est décrit par des structures continues, donc tout est continu, il n'y a rien de granulaire. Il y a des champs, comme le champ électrique, le champ magnétique, le champ gravitationnel. L'espace lui-même, c'est un champ, c'est le champ gravitationnel, qui se courbe et tout est bien défini. Les équations permettent de prédire qu'est-ce qui se passe dans le futur, en principe, de façon unique. Et voilà, c'est une vision du monde parfaitement claire, cohérente, qui nous permet de comprendre plein de choses de l'univers. L'après-midi, c'est tout à fait différent. L'espace n'est pas courbe, l'espace est plat, il n'est pas dynamique, il est fixe. Les particules sont des morceaux discrets, tout est discret, c'est-à-dire granulaire. La lumière n'est pas une onde, mais ce sont des photons, c'est-à-dire que le matin, la lumière était une onde. Et on ne peut pas prédire les choses de façon exacte parce que la mécanique quantique ne permet pas de prédiction exacte, elle ne permet que de faire des prédictions probabilistes. C'est-à-dire qu'on peut prédire la probabilité que quelque chose se passe et il n'y a pas du déterminisme. Tandis que le matin, tout était déterministe. Et donc, un bon étudiant, il rentre chez lui le soir et il dit « Mais on se moque de moi. On ne peut pas me décrire le monde de façon si absolument incompatibles l'une avec l'autre. Et ça, c'est le problème de la gravité quantique. Bien évidemment, le monde est un seul et il doit y avoir une description cohérente qui se réduit à celle du professeur du matin dans un certain domaine et à celle du professeur de l'après-midi dans un autre domaine. Et attention, on dit souvent que c'est l'une, la mécanique quantique, c'est la théorie des phénomènes petits, et l'autre, la réalité générale, c'est la théorie de l'infiniment grand. C'est pas correct, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne connaît rien d'infiniment. C'est-à-dire, la mécanique quantique décrit des choses petites, mais certainement pas des choses infiniment petites. Parce que, probablement, et moi je pense qu'il n'y a pas d'infiniment petit. Il y a une limite inférieure à la divisibilité des choses. Et en tout cas, on voit jusqu'à une certaine taille. On ne voit pas rien d'infiniment petit. Et même chose dans le grand. On ne voit pas des choses infiniment grand. L'univers est grand. Très grand, c'est horriblement grand, mais c'est pas infini. Moi, je dirais probablement, moi, je suis pas convaincu que c'est pas infini du tout. Et en tout cas, on voit pas l'infini. Donc, on voit des choses grandes et des choses petites. Et les choses entre les deux partagent les propriétés des choses grandes et des choses petites. Donc, on peut pas avoir deux physiques différentes. Enfin, le monde est cohérent. On a toujours trouvé un monde cohérent jusque-là. Ce serait surprenant qu'on ait arrivé à trouver une cohérence dans le monde. Et donc, la question s'ouvre toute seule de mettre d'accord ces deux théories. Et dans un certain sens, c'est le rêve d'un théoricien, parce que c'est comme ça qu'on avance. Comment Einstein a trouvé ces théories? Parce qu'il y avait des théories contradictoires. Il y avait la théorie du Newton de la gravité et la réalité restreinte. Et l'effort de trouver une solution à l'apparente contradiction entre les deux lui a permis de trouver sa théorie de la gravité, la réalité générale. Et même Newton. Comment Newton a fait cette synthèse incroyable qui était la meilleure description du monde pour des siècles? Ben, d'un côté, il y avait toute la description de comment les choses bougent dans le ciel de Kepler, et de l'autre côté, il y avait les équations du mouvement sur la Terre de Galilée. Et ils étaient différents. Dans le ciel, c'était des ellipses, sur la Terre, c'était des paraboles. Et Newton se demande comment ça peut être des ellipses dans un côté et des paraboles dans l'autre. Et il trouve une équation qui prédit soit les ellipses, soit les paraboles dans certaines approximations. Et c'est ça qu'il faut faire, évidemment. Il faut trouver une équation et une structure mathématique qui se réduit à la relativité générale dans une approximation et à la mécanique quantique avec tout ce que connaissons de particules dans une autre approximation. Ça, c'est le problème de la gravité quantique.
Si on doit la relativité générale presque exclusivement à Einstein, la mécanique quantique, elle, est le fruit d'un effort collectif, une série de génies qui ont travaillé entre 1900 et 1930, mais selon vous, le moment vraiment crucial qui a ouvert la voie à la nouvelle compréhension du monde, c'est avec Werner Heisenberg. Pourquoi est-il si fondamental dans cette histoire ?
Et parce que jusqu'à ce moment-là, il y a eu un certain nombre d'idées qui ont commencé à marcher, très important, par Einstein lui-même, par Niels Bohr, par d'autres, qui ont mis des pierres, des petits morceaux du grand puzzle qui était comment décrire les phénomènes quantiques. Quand Heisenberg, 1925, a écrit son papier, très vite, lui-même avec Max Born et Pascual Jordan, ont écrit des articles dans lesquels il y avait tout le formalisme de la mécanique quantique. De là, on a eu les maths, les mathématiques. Et l'idée clé, c'était qu'il y a des quantités qui sont non commutatives. Donc, utiliser des mathématiques où il y a des quantités A et B, telles que A fois B, c'est différent que B fois A. C'est une idée mathématique très simple, duquel dérive la mécanique quantique. Peu après, il y a eu Schrödinger, qui a introduit la fonction d'onde, qui a un peu éclairci ce que Heisenberg et ses collègues avaient fait, mais aussi, à ma façon de voir, un peu rendu les choses un peu plus en clair. Beaucoup de la confusion autour de la mécanique quantique, des grandes discussions qu'il y a maintenant autour de la mécanique quantique, sont dues à la confusion, je pense, introduite par Schrödinger avec ses ondes, ses étranges ondes de probabilité. Donc, à ma façon de voir, le moment de clarté et le pas fondamental a été introduit par Heisenberg, qui était à la fois un pas mathématique, mais surtout un pas conceptuel. Parce que moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait la science, c'est pas seulement des maths. Je pense qu'on se trompe quand on pense que la science est seulement des équations, des mesures et des maths qui font des prédictions. La science, c'est de comprendre quelle est la structure conceptuelle correcte adapter la meilleure jusque-là, la meilleure qu'on a trouvée jusque-là pour décrire le monde. Et ce que Heisenberg fait, il commence en disant « Moi, je vais décrire les atomes en n'utilisant que des quantités qu'on peut observer. » C'est-à-dire, il est prêt à jeter des choses qu'on imagine soient là, mais qu'on n'a pas vues, et donc il ne faut pas imposer à la réalité nos idées sur comment la réalité doit marcher. Jusque-là, on pensait que tout doit être décrit avec des particules, avec des forces, et les équations de Newton disent comment une particule bouge sous l'effet d'une force. Donc on cherchait que des équations de force. Heisenberg se libère complètement de tout ça et il dit non, on mesure des choses, on va trouver comment décrire le monde en termes de ce qu'on voit, sans faire des hypothèses sur comment la réalité doit marcher. C'est ça la grandeur d'Heisenberg.
Unifier les deux physiques, résoudre le problème de gravité quantique. On y vient avec la fameuse théorie du tout.
Beaucoup de scientifiques, enfin pas tous, mais certains scientifiques, certains cosmologistes, auraient envie de même que le mythe donne une théorie du tout. Hein, finalement, elle explique pourquoi nous sommes là. Eh bien, d'avoir une théorie qui permette d'expliquer toutes les forces de la nature et d'expliquer dans sa totalité l'évolution de la matière, et ce qui a conduit au chaos jusqu'à nous aujourd'hui. Cette théorie du tout qui serait, par exemple, la possibilité d'unifier les quatre forces de la nature. Il y a quatre forces qui sont convoquées pour expliquer tout ce que l'on observe, qui est la gravitation, la force forte dans les noyaux d'atomes nucléaires, la force électromagnétique et la force faible qui permet d'expliquer la radioactivité. Eh bien, ces quatre forces peuvent être, peut-être, l'expression d'une seule force unique. Et ça ressemble à un demiurge scientifique. Et donc, c'est à l'origine des efforts de nos théoriciens pour élaborer une théorie qui serait la grande théorie du tout. The theory of everything, comme on entend dire parfois.
La voix de Daniel Kent en 2003. Une réaction à cette archive, Carlo Rovelli.
Moi, je pense qu'il faut faire une distinction très claire entre la gravité quantique, le problème de la gravité quantique, et la recherche d'une théorie du tout. Ce n'est pas la même chose, et confondre les deux choses, ce n'est pas bien pour la recherche et aussi pour la clarté. Pourquoi ce sont deux problèmes différents? Parce que la gravité quantique est clairement un trou, quelque chose qui ne marche pas dans notre description du monde. Il y a une contradiction entre les équations que nous utilisons pour décrire certains phénomènes et les équations que nous utilisons pour décrire d'autres phénomènes. Et cela veut dire en particulier qu'il y a des phénomènes entre les deux que nous ne sommes pas capables de décrire. Par exemple, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, au centre d'un trou noir? Ou qu'est-ce qui se passe quand un trou noir termine son évaporation, parce que les trous noirs ont vie finie, ils deviennent de plus en plus petits, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Ben, parce que justement, il y a des phénomènes dans lesquels soit la gravité joue un rôle, soit la mécanique quantique joue un rôle. Et donc, comme on n'arrive pas à utiliser les deux ensemble, on n'a pas les équations pour les décrire. Donc, c'est un problème physique très concret. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie d'un trou noir? L'autre domaine où la gravité quantique est essentielle est l'univers primordial. On sait très bien, un des grands résultats de la science moderne, c'est qu'on a reconstruit l'histoire de l'univers pour 14 milliards d'années. Et juste avant ça, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que on n'a pas, parce que là, les phénomènes sont déterminé par la gravité et aussi par la mécanique quantique. Parce que c'est tout très comprimé, très chaud, proche du Big Bang. Il y a une grande énergie, une grande compression. Et donc là, tout est quantique, parce que grande énergie, ça veut dire quantique, et tout est très concentré, et donc ça veut dire le champ gravitationnel est très fort. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'a pas cette théorie. Alors ça, c'est le problème de la gravité quantique. La recherche de la théorie du tout, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, nous avons des équations qui décrivent la force électromagnétique, des équations qui décrivent les forces fortes, c'est-à-dire comment les noyaux, à l'intérieur de noyaux, les différents quarks interagissent les uns avec les autres, et s'étiennent les uns avec les autres. Mais on n'a pas une théorie, une seule théorie, on n'est pas capable de créer une seule simple équation duquel tout puisse dériver. Cela ne veut pas dire qu'il y a contradiction entre les différents morceaux. Les physiciens ont un rêve d'écrire une équation finale, une équation unique, la théorie de tout, qui pourrait être attendue, ce rêve, maintenant ou pas. On ne sait pas, peut-être il y a d'autres forces qu'on ne connaît pas, peut-être il y a d'autres parties de la réalité que nous n'avons pas eu accès encore. Donc moi je vois la recherche d'une théorie de tout comme un rêve que c'est intéressant de suivre, mais que dans un certain temps, c'est pas urgent et je serais pas surpris si on n'est pas là. Einstein voulait écrire la théorie de tout en unifiant l'électromagnétisme et la gravité à certains moments de sa vie. Ben, il s'est trompé parce que finalement, il y avait d'autres forces qu'il connaissait pas. On pourrait être exactement dans la même situation. La théorie de tout n'est pas nécessaire pour décrire des phénomènes auxquels on a accès expérimental, comme le Big Bang ou les trous noirs. Ce qu'on a au contraire vraiment besoin, c'est une théorie qui décrit là où comprenons pas, et donc là où il y a des contradictions entre les morceaux de la physique que nous avons. Donc là, la gravité quantique, c'est tout simplement le problème de mettre la théorie d'Einstein et la gravité ensemble avec la mécanique quantique, de façon qu'ils soient cohérentes avec le reste de notre physique. Et ensuite, le problème d'une théorie du tout, c'est de voir tout ce que nous savons comme dérivé d'une seule chose. Le grand tentatif d'écrire une théorie du tout a été la théorie des cordes. La théorie des cordes est aussi une théorie de gravité quantique, mais est beaucoup plus que cela. Est aussi l'idée qu'il y a ces petites cordes qui, en même temps, donnent lieu aux électrons, aux quarks, à la gravité, à la force électromagnétique, à tout. Et c'était un grand espoir, avec des résultats partiels, qui a trouvé des difficultés. Il y a des gens qui ont encore l'espoir que ça puisse arriver à donner une description fondamentale. Moi, j'ai moins d'espoir dans cette direction. Je pense que le problème de la gravité quantique, par contre, est quelque chose qu'il faut résoudre. qu'il faut résoudre parce que sinon, nous avons une vision du monde qui ne tient pas.
Mais cette théorie des cornes hein, qui est partiellement en concurrence avec la théorie de la gravitation quantique à boucle. Pour revenir au problème de gravité quantique, Carlo Rovelli, pourquoi est-il si difficile d'unifier la physique en rassemblant relativité générale et mécanique quantique? Pourquoi est-il si compliqué hein, d'appliquer ces principes de la mécanique quantique à la relativité générale alors que les physiciens ont réussi à le faire pour les trois autres forces fondamentales, électromagnétisme et force nucléaire faible et forte?
Alors, les méthodes utilisées avant pour traiter les propriétés quantiques des autres forces ne marchent pas si on les applique à la relativité générale d'Einstein. On peut essayer les mêmes méthodes et on se trouve avec des quantités qui sont toujours infinies. Et on n'arrive pas à les contrôler, on n'arrive pas à faire des calculs. Et la raison, assez simple, est de la suivante. D'où viennent ces quantités infinies? Elles viennent de l'idée que l'espace est continu. Or, le grand résultat de la gravité quantique à boucle est un résultat qui est obtenu avec des méthodes directes, techniquement on les appelle non perturbatifs, d'application de la mécanique quantique à la théorie d'Einstein, qui sont arrivés à moitié des années 90, qui nous disent que ces petites boucles, donc j'ai parlé, qui sont des excitations de l'espace, ces petits quanta d'espace, on peut les calculer. On peut calculer comment la taille des graines élémentaires d'espace. Et ce calcul, c'est un calcul standard de mécanique quantique. En mécanique quantique, on calcule que certaines quantités ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, les électrons dans les atomes sont sur des orbites, mais ces orbites ne sont pas arbitraires à n'importe quel rayon du noyau. Il n'y a que certaines orbites particulières. C'est comme ça qu'a commencé la mécanique quantique, en observant le spectre de la lumière des éléments, on se rend compte qu'ils sont dus du saut quantique d'une orbite à l'autre, d'une orbite quantique à l'autre. Alors ce même calcul, ça s'appelle calcul spectral, parce que le spectre, parce que ça vient c'est le même calcul qu'on faisait pour le spectre de la lumière, appliqué à la relativité générale, nous dit quelles sont les tailles possibles des grains d'espace. Et ça, c'était un résultat obtenu 95, à peu près ces années-là, en utilisant la structure mathématique de la gravité quantique à boucle. Et cela nous dit que l'espace n'est pas continu, que l'espace est granulaire. C'est ça la conséquence fondamentale, le résultat, c'est pas une assumption, c'est un résultat d'un calcul dans la gravité quantique à boucle. Alors, comme l'espace est granulaire, les calculs qui font l'assumption que l'espace est continu sont fausses. Et les infinis qu'on trouvait en utilisant des méthodes anciennes, les mêmes méthodes qu'on utilise pour les autres interactions, les utilisant pour la gravité, ces infinis disparaissent. Quand on tient compte de cette granularité de l'espace, on se rend compte que ces infinis étaient faux. Il venait d'une idée fausse qui est l'espace continu. En même temps, je pense que tout le monde qui nous écoute se rend compte que ça, c'est un changement important de notre façon de voir le monde, non? Parce que nous pensons que nous sommes immergés dans un espace continu. On nous a appris à l'école, finalement, la géométrie euclidéenne, x, y, z, on fait un problème, une particule bouge dans un espace continu. On nous a appris les mathématiques du continu à l'école. Eh ben, finalement, l'espace n'est pas fait comme ça. Ça, c'est une approximation. C'est une approximation quand on regarde les choses à très grande échelle par rapport à la taille des graines élémentaires d'espace. Et donc, il faut changer quelque chose de fondamental dans notre conception de ce qu'est l'espace. L'espace n'est pas continu et granulaire. Ça, c'est la conséquence de la réalité quantique à boucle. Et c'est qu'au même temps, permet de faire les calculs, calculer qu'est-ce qui se passe au Big Bang, qu'est-ce qui se passe dans le trou noir, avoir une théorie cohérente de la gravité quantique, au prix, comme je disais au début de cette conversation, faire de la science, c'est toujours jeter quelque chose et comprendre que nous avions des idées fausses. Les défauts, ici, c'est la continuité de l'espace.
Eh bien, on va continuer à décortiquer cette théorie de la gravitation quantique à boucle et de voir comment vos travaux ont été perçus. Restez avec nous. Shone like the sun.
exposed in the light.
Shine on your crazy diamond des Pink Floyd sur France Culture. Nous avons la joie de nous entretenir tout au long de cette heure avec l'un des pères de la gravitation quantique à boucle. Nous avons vu dans un premier temps votre parcours de jeune physicien et nous venons de voir que vos résultats en théorie, la théorie de la gravité quantique à boucle, vos résultats proposent que l'espace soit constitué d'entités discrètes à très petite échelle, des grains d'espace, des atomes d'espace, Carlo Grovelli en fait.
C'est ça. Ils sont à l'échelle de Planck, qui est cette échelle très petite, où on s'entend que c'est là que la gravité quantique fait son jeu. C'est là que la théorie d'Einstein et la mécanique quantique sont nécessaires tous les deux. Et là, à cette taille qui est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de fois 10 puissance 33 graines d'espace pour faire un millimètre. C'est là qu'on voit la structure granulaire de l'espace. Et c'est là que le temps aussi devient étrange.
Oui, vous dites que l'espace-temps est discontinu et fait d'atomes, comme peut l'être la matière. Et vous utilisez aussi une allégorie que j'aime bien, c'est qu'il faut penser l'espace comme un t-shirt. Si on regarde de très près, on y découvre des mailles avec un réseau.
Oui, parce que la différence entre les graines et les grains qui font l'espace, c'est d'abord que les grains qui font l'espace sont très petits, mais surtout qu'ils sont liés les unes avec les autres comme un réseau. Et finalement, quand Liz Molling et moi, on est en train d'utiliser la mécanique, la mathématique de la gravité quantique à boucle pour décrire ces grains d'espace, on s'est rendu compte qu'on était en train de tomber sur les mathématiques qui avaient été développées par Roger Penrose, le grand mathématicien anglais qui vient d'avoir le prix Nobel pour la physique, pour son travaux sur les trous noirs. Et Penrose avait dérivé cette mathématique qui s'appelle des spin networks, des réseaux de spin, qui décrit justement des graines connectées par des liens, donc ça forme un réseau, avec des mathématiques, des structures mathématiques, qui s'appellent des spin, parce que le spin, c'est rotation en anglais. Donc, comme c'est l'espace est lié à la possibilité d'avoir des rotations. C'est de là que vient le nom. Et donc, on s'est rendu compte que ces mathématiques développées par Penrose, les réseaux de spin, étaient justement les justes mathématiques pour décrire ces quantas d'espace. Et donc, maintenant, quelques décennies plus tard, il y a plein de groupes de recherche qui travaillent en utilisant ces mathématiques de spin network élaborées par Penrose debout et que nous, on s'est rendu compte qu'ils sortent tout seuls en appliquant la mécanique quantique aux théories d'Einstein.
La théorie des boucles, ces grains d'espace, ces atomes d'espace qui composent la structure fine de l'espace, ça permet aussi de faire des calculs sur des choses qu'on ne comprend pas encore, comme ce qui se passe donc à l'intérieur des trous noirs ou la singularité de l'univers à son commencement, entre guillemets.
Oui, c'est ça. Et le trou noir, le problème ouvert, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de leur évaporation? Ou bien, on peut le voir comme ça. On voit les trous noirs dans le ciel maintenant. Nous, on voit plein de trous noirs dans le ciel. On a des photos.
Deux belles images, en effet.
Oui, justement. Et on voit, et les photons, finalement, c'est pas les trous noirs. C'est la matière qui tombe dans les trous noirs. Hein, matière très chaude qui des vortex, vorticité autour des trous noirs et qui tombe dedans. Alors, un gamin pourrait demander, ben, c'est formidable. Où va toute cette matière qu'on voit tomber dans les trous noirs? Où va-t-elle? Si je suis tombé dans le trou noir, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, ça c'est la question. Et pour la répondre, la gravité quantique à boucle a une réponse. On peut rentrer dans le trou noir, on peut tomber vers l'intérieur, et quand on arrive au fond, on passe à travers un saut quantique, même saut quantique comme les électrons dans les atomes, et on se trouve de l'autre côté dans un trou blanc. C'est-à-dire dans une structure très similaire en trou noir, mais dans laquelle, dans un certain sens, le temps est renversé. On peut sortir de là, maintenant, comme dans le trou noir, on peut seulement entrer. Dans le trou blanc, on peut sortir. Et donc, si je vois de l'extérieur, je vois la matière qui rentre dans un trou noir, le trou noir qui devient de plus en plus petit, et finalement devient un trou blanc. Donc, devient quelque chose duquel toute la matière qui est rentrée peut sortir. Et la chose merveilleuse dans cette belle image, et que si je pouvais rentrer dans le trou noir, j'arriverais au centre très vite, quelques secondes, et je sortirais très vite, quelques secondes, de l'autre côté. Mais rappelons-nous que un des grandes découvertes d'Einstein est la réalité générale. Toute l'idée de la réalité générale, c'est que le temps passe à des différentes vitesses. Donc, ce serait un temps très vite pour quelqu'un qui rentre et sort, mais vu de l'extérieur, tout ça est vu incroyablement au ralenti. Et donc, l'énorme distorsion de temps fait que cet rebondissement, rentrer, rebondir, sortir, vu de l'extérieur, on le voit presque congelé pour des milliards d'années. Et c'est ça un trou noir. C'est le rebondissement de quelque chose qui tombe, qui rebondisse, vu congelé de l'extérieur à cause de l'énorme distorsion temporelle.
Voilà, la gravitation quantique à boucle transforme les trous noirs en trous blancs, mais transforme aussi le Big Bang en ce qui pourrait plutôt ressembler à une vision d'un Big Boom, autrement dit un grand rebond également, Carlo Rovelli.
Oui, tous les calculs en gravité quantique à boucle semblent indiquer, ils pointent toutes dans la même idée, que le Big Bang, c'est pas vraiment un debout, il y avait une phase précédente, qu'on peut voir comme une phase précédente dans laquelle l'univers, dans un certain sens, est en train de comprimer. Et donc, finalement, c'est similaire à l'image que j'ai donnée des trous noirs qui rebondissent en trous blancs. Là, on peut imaginer l'univers entier qui se comprime, devient très très petit, mais comme il y a une granularité de l'espace, il ne peut pas se comprimer à l'infini, parce qu'il n'y a pas d'infini petit. C'est justement, encore une fois, l'idée qu'il n'y a pas d'infini. Et l'univers très comprimé rebondit, c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est rebondir et commencer une immense expansion qui est ce qu'on voit comme le Big Bang. Alors, est-ce qu'on sait que c'est certainement comme ça? Non, mais ça c'est ça la science. Chercher de regarder où on ne voit pas encore. Ça c'est l'image que la gravité quantique à boucle nous donne de ce qui se passe au Big Bang. C'est un grand rebond. Plus qu'une grande explosion.
Et puis par ailleurs, tout est encore loin d'être achevé dans cette théorie. La théorie de la gravitation quantique à boucle, c'est une hypothèse. Il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. Carlo Rovelli, quand en 1988, avec Lise Molin, vous présentez cette théorie, quel accueil avez-vous reçu parmi la communauté scientifique ?
Dans le monde de la gravité, de la relativité générale, l'accueil était très bon, plutôt enthousiaste. Moi, je dirais, on a commencé à parler de ça, des conférences, on a voyagé, on voulait voir des collègues. Bien sûr, la première chose que j'ai fait, c'était aller à Londres avec Lee et raconter cette histoire à Londres. On a raconté cette histoire à Stecker. Et de suite, il y a eu un enthousiasme. Les jeunes ont commencé à venir chez nous. Il y a eu des groupes. Maintenant, il y a des grosses conférences avec des centaines de gens régulières. Au même temps, il y avait eu, c'était les mêmes années, le moment d'enthousiasme pour la théorie des cordes. Et donc, le monde des particules, les physiciens des particules, il y en a quelqu'un qui s'est enthousiasmé, mais il y en a plusieurs qui étaient plus suspicieux parce qu'ils étaient plus attirés par l'idée de la grande unification de tout et de la théorie des cordes. Et finalement, la gravité quantique à boucle est un peu basée sur l'idée de prendre la mécanique quantique très au sérieux et la réalité générale très au sérieux. Donc, c'est un peu basé sur l'idée qu'il ne faut pas penser un espace sur lequel les choses bougent, mais il faut penser à l'espace lui-même comme un acteur qui a des propriétés quantiques et justement deviennent granulaires. Et ça, c'était plus longtemps de la culture scientifique des théoriciens de particules. C'était plus facile d'accepter ça par les relativistes. Et cela a donné lieu à une certaine division de la communauté et même une tension, parce que les unes disaient des autres, mais non, vous êtes sur la fausse piste, qu'on peut continuer encore. Mais moi, je dirais, on a continué à regarder les unes des autres, chercher d'apprendre des unes des autres. Il y a plein de techniques qui sont passées d'un côté à l'autre. Et moi, je suis pas du tout sûr que la gravité quantique à boucle, c'est la juste réponse, mais assez confiante que la probabilité qu'il soit la bonne réponse, c'est haute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
Vous écoutez France Culture et la voix d'un des pères de la gravitation quantique à boucle, Carlo Rovelli, avec qui nous avons la chance de nous entretenir tout au long de cette heure. Nous l'avons vu, faire de la gravitation quantique change notre compréhension de ce qu'est l'espace-temps, Carlo Rovelli. Le monde que décrit cette théorie s'éloigne encore plus du monde qui nous est familier tout de même.
Oui, voilà. La gravité quantique à boucle change de façon intense, forte, comment passer l'espace, mais peut-être de façon encore plus forte comment passer au temps. Et ça, ça a été l'autre passion de ma vie, comprendre qu'est-ce que le temps. C'est aussi le sujet d'un livre que j'ai écrit, L'ordre du temps, où j'ai un peu mis tout ça ensemble. Le temps m'a toujours fasciné, parce que... Avant la gravité quantique à boucle, ou non à boucle, avant le problème de la gravité quantique, déjà la physique a changé de façon violente notre intuition du temps. Les théories d'Einstein nous forcent à penser le temps de façon différente. Et même les théories de Newton nous forcent à penser le temps de façon différente. Parce que dans la théorie de Newton, les équations de Newton ne font pas de distinction entre le passé et le futur. Et on a dû attendre Boltzmann et Maxwell, la thermodynamique, la mécanique statistique, pour se rendre compte que la distinction entre le passé et le futur est beaucoup plus compliquée de ce que est notre intuition immédiate. La distinction entre passé et futur dépend de la présence de chaleur, dépend de la description imprécise que nous donnons du monde sans regarder les détails microscopiques. Et la théorie d'Einstein nous dit, par exemple, et ça a été vérifié en laboratoire, donc c'est plus l'idée d'Einstein, c'est ce qu'on sait de la réalité, nous dit que deux horloges peuvent être séparés et quand ils se rencontrent, une a mesuré plus temps que l'autre. Ou deux jumeaux, comme dans la fable bien célèbre, peuvent se séparer et se rencontrer, un est plus vieux, l'autre plus jeune. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. La raison pour laquelle on voit pas ces phénomènes, parce qu'ils sont trop petits dans notre vie quotidienne. Alors, quand on y met la gravité quantique, quand on ajoute la mécanique quantique à cette histoire de l'étrange structure du temps, ça devient encore plus dramatique. Parce que les équations de la gravité quantique à boucle n'ont pas du tout une variable temps. Le temps disparaît de la théorie. La théorie ne décrit pas comment l'espace, comment la nature évolue dans un temps, dans une horloge externe qui dit 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, mais elle ne décrit que comment les choses évoluent les unes par rapport aux autres. Donc, toutes les équations de la gravité quantique à boucle sont des équations relatives, pas des équations par rapport en temps externe. Et donc, tout peut être une horloge par rapport à quelque chose d'autre. Et ça, c'est une façon radicalement nouvelle de voir l'évolution. On voit des processus, mais pas des processus qui se passent dans le temps, des processus qui se passent les uns par rapport aux autres. Ça, c'est pas facile à digérer. La granularité de l'espace, c'est plus facile à digérer. Et je pense que ça a été une des obstacles conceptuels pour arriver à formuler une théorie de la gravité quantique. Mais on y arrive avec la même difficulté qu'on a à penser que à Sydney, les gens vivent avec la tête en bas et les pieds en haut par rapport à nous. Et quand même, ça marche parfaitement. Il y a un lien d'inraisonnable comme ça. De la même façon, on peut penser que l'évolution temporelle est relative, est complètement relative. Et on peut penser le monde comme ça. Et notre idée du monde, notre idée de la temporalité usuelle, c'est-à-dire, il y a un seul temps qui est le même partout, le passé est différent que le futur, etc. Ce n'est qu'une approximation. Voilà. À niveau fondamental, le temps n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas pour nous, mais ce que nous appelons temps, c'est une notion approximative qui est bon pour décrire notre expérience, mais qui n'est plus bon pour décrire la structure élémentaire de la réalité à l'échelle de Planck.
Vous évoquiez l'ordre du temps, votre ouvrage paru en 2018 aux éditions Flammarion. Pour bien comprendre votre réflexion sur la nature du temps, je vous propose une nouvelle lecture. Nous décrivons donc le monde tel qu'il se produit et non tel qu'il est. La mécanique de Newton, les équations de Maxwell, la mécanique quantique, etc. nous disent comment se produisent les événements et non comment sont les choses. Nous comprenons la biologie en étudiant comment évoluent et vivent les êtres vivants. Nous comprenons la psychologie, un peu, pas beaucoup, en observant comment nous interagissons entre nous, comment nous pensons. Nous comprenons le monde dans son devenir, non dans son être. Les choses mêmes ne sont que des événements qui sont monotones pendant un moment, avant de retourner à la poussière. Parce que tôt ou tard, évidemment, tout redevient poussière. L'absence de temps ne signifie donc pas que tout est gelé et immobile. Elle signifie que la production incessante d'événements qui fatiguent le monde n'est pas ordonnée le long d'une ligne du temps, n'est pas mesurée par un gigantesque tic-tac. Elle ne forme pas non plus une géométrie quadridimensionnelle. C'est un réseau immense et désordonné d'événements quantiques. Le monde ressemble davantage à Naples qu'à Singapour. Si par temps, nous n'entendons rien d'autre que ce qui se produit, alors chaque chose est temps, seul ce qui est dans le temps existe. Carlo Rovelli, voilà, quand on touche à cette question du temps, la philosophie n'est jamais loin. Comment et en quoi la philosophie peut-elle nous aider à mieux appréhender la mécanique quantique?
Moi, je pense que si on regarde le développement de la science dans le passé, l'influence de la philosophie a été toujours là, toujours forte et toujours presque déterminant. On a parlé d'Heisenberg. Avant, ses idées étaient fortement influencées par la philosophie. Il lisait de la philosophie. Einstein était fortement influencé par la philosophie. Donc, le dialogue entre la pensée philosophique, et même, je dirais, la pensée culturelle, la pensée générale d'une culture, et la recherche scientifique est forte. Et je pense que les scientifiques qui cherchent de se séparer de la pensée philosophique oublie le côté conceptuel de la recherche et on peut pas l'oublier. Quelqu'un doit s'occuper de ça aussi.
Voilà, faire de la science, c'est d'abord changer de vision conceptuelle. Merci infiniment Carlo Rovelli de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoule, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Nafi Terras. À la réalisation, Hélène Tigros. À la technique aujourd'hui, Étienne Chaise. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
Collection Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction.
Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui?
Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.